Utsita. 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 Attitude. Attitude. Utsitanitude. Utsitanitude.
Une émission de Jean Tufou, mise en onde par Lucas Dulac. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes donc dans l'Occitanitude. L'Occitanitude de Jean-Pierre Pinoton. Bonjour Jean-Pierre Pinoton.
Bonjour Monsieur Jean Tufou.
Alors Monsieur Jean-Pierre, qu'est-ce que nous allons leur dire aux auditeurs? Ils vous connaissent par cœur, non?
Oh, par cœur, ça m'étonnerait, mais enfin on peut leur raconter quelques histoires qu'ils ne connaissent pas. Alors, des secrets.
Racontons-nous comment on peut amener donc cette vérité acquise sur la foire, sur le territoire de nos amis de Radio Languedoc. Alors, où on en est là, Jean-Pierre? On raconte de quoi?
Ah ben on peut commencer, je ne sais pas, mais on peut commencer par des aventures autour du Brillant et de la 16.
Voilà.
Pour donc, prendre la citadelle. Hein.
Alors là, c'est de nouveau Minerve de Sandet. On y va tout de gros avec Léon, en premier invité d'honneur. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Léon, là-bas?
Léon Corde, il a écrit dans un occitan, je suppose, parfait, puisque, comme mon accent le doit le signaler, je ne suis pas du tout de cette région, mais ça fait quand même, comme j'ai déjà raconté, ça fait plus de 50 ans quand même que je sévis sur ce territoire. Donc, Léon Corde, il s'est permis d'écrire une pièce de théâtre qui raconte l'histoire de la prise de Minerve, et avec, évidemment, toute cette aventure des Cathares et de Simon de Montfort.
Et voilà, Simon de Montfort, on est à fond, là. On est à fond avec, donc, cette aventure ô combien classique de l'histoire des Cathares. Alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il en reste pour vous de tout cela?
Mais il en reste surtout que le temps a passé, et je croyais que ça faisait qu'une vingtaine d'années, en fait, en calculant bien, ça va bientôt faire 50 ans que cette aventure s'est déroulée. Donc, étant donné qu'il me reste encore un peu de souvenirs, je pense que c'était une aventure assez intéressante au niveau humain, et en même temps de faire découvrir un territoire, et en même temps, à cette période, il y avait quand même une crise, comme aujourd'hui, du reste, comme je peux constater aujourd'hui, une crise de la viticulture. Et c'était pour permettre aussi de faire reconnaître ce territoire au niveau viticole. C'est une expérience qui était assez intéressante parce que la culture s'est mise au service d'une certaine économie et en même temps, disons, de créer aussi un phénomène de vivre ensemble.
Alors, cette façon de vivre ensemble, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce que vous nous dites? Quel est l'angle d'approche? Viticulture, oui, certainement, mais au-delà?
Au-delà, nous sommes d'abord sur une petite commune, hein, qui a donc un passé, une histoire, qui était en train, pour moi, enfin, qui vient d'ailleurs, donc je dirais qui était en train de végéter, en fait, les habitants, c'est vrai qu'il faut y vivre à l'année, hein, c'est pas forcément, c'est sans doute très agréable, mais bon, c'est un choix aussi. Mais ce territoire nécessitait, sans doute, de pouvoir être connu. Et je vois qu'aujourd'hui, quand même, il y a une grande population touristique qui s'aventure, sans être non plus énorme, mais enfin, les gens viennent quand même découvrir ce territoire et son histoire à travers ces deux rivières qui enserrent ce village qui s'appelle Minerve.
Et donc, c'est l'histoire de la Cesse et du Brillant.
Voilà. Alors, c'est bizarre parce que la Cesse, enfin c'est bizarre, la Cesse a créé des tunnels naturels qui sont absolument sensationnels à découvrir. Moi, ceux qui ne connaissent pas Minerve, je les invite à aller découvrir ce territoire parce que c'est une aventure, c'est un jeu de découverte pour adultes là-bas. C'est assez prestigieux, c'est monumental. Et le Brillant, lui, a l'intérêt de créer des petites piscines, enfin des petits, où on peut aller se baigner l'été. Alors que la Cèze, il n'y a plus d'eau du tout. On peut se promener dans le lit de la Cèze. Et tout ça enserré m'énerve. Ce qui faisait que cette commune, enfin cette commune, cette cité, disons, il n'y avait pas de commune à l'époque, mais cette cité était sans doute très difficile à prendre. Et les guerriers de Simon de Montfort se sont évertués à la prendre. Ils y sont arrivés, bien évidemment, mais ils sont quand même cassés un peu les dents.
Et comment s'est terminée cette histoire? Est-ce que vous l'avez en mémoire?
Ah ben oui, l'histoire contemporaine ou l'histoire de Minerve 1210?
Non, l'histoire de Minerve 1210, l'histoire contemporaine. Hein.
Ah ben oui, l'histoire... Ah ben oui, c'est-à-dire que l'histoire, écrite par Léon Corde pour parler de lui, qui ressemble sans doute à la réalité, hein, puisque... Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de bande, il n'y a pas de CD de l'époque, ni de DVD, hein, donc on ne peut pas savoir, mais je pense que ça s'appuie sur une réalité, et les cathares, en fait, ont jeté dans le lit de la 16 plein d'objets en bois, et se sont jetés dans les flammes du haut du village.
Et c'est là qu'on a vu Minerve la Rouge. Et oui. Bien nommé, avec des couleurs de Pinotto.
Ah oui, c'est-à-dire que là, c'est très difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais c'est dit au niveau du théâtre, puisque c'était une pièce de théâtre, à faire découvrir au public, il fallait donc. Alors, évidemment, au premier degré, ce serait de prendre des mannequins et les jeter dans des flammes en bas. En fait, étant donné qu'il reste cette commune des Tours. Plus ou moins étêté, mais il y a des tours avec des projecteurs et des gélatines rouges, c'est-à-dire qui permet aux éclairages d'être rouges. Il s'avérait que le soir, souvent, le vent du sud soufflait et amenait des nuages qui n'étaient pas forcément de pluie, peut-être des nuages de beau temps, et ce qui fait que les nuages, en passant, prenaient toute cette lumière rouge. On aurait dit des âmes torturées qui s'en allaient dans l'au-delà. Voilà.
Voilà, ça c'est dit. Hein. Ça fait une belle entrée d'émission.
Ah ben, je sais pas, mais enfin, l'image finale, j'ai vu des gens avoir les larmes aux yeux, quand même.
Oui, quand même.
Oui.
Alors, il y avait, donc, dans cette aventure, il y avait le père Léon Corde.
Ah, il y avait son père, oui, il y avait le père Michel Corde qui était
le
là.
Et le fils.
Et il y avait son fils qui faisait la mise en scène. Léon Corde était déjà très gravement malade à l'époque, puisqu'il assistait au spectacle directement assis dans sa voiture. Hein. Donc, on raconte une histoire qui a 50 ans hein, bientôt. Hein. Donc, Léon Corde a dû disparaître quelque temps après. Du reste, il est toujours. On ne peut pas s'en aller, donc il est toujours enterré à Minerve. Quoi.
Il est là, oui. Donc, il est présent.
Il est présent sur place.
Il est présent sur place.
Je l'ai pris comme il est venu, les bras ouverts, le front bien haut, profondément étrange et beau. Je l'ai pris comme il est venu, belle idole un peu perdue, comme un nouveau Corcovado, crevant sur le ciel de Rio. São Paulo e o Recolê. Mais je sens qu'à présent mon lit est pour toi l'île d'une rivière, plus menue que celle d'ici et qui t'emmène et je te perds. Ce n'est pas là déjà pourri dont nous contemplions hier la force qui te sort de ma vie, mais un ruisseau du Loir est cher, mon bel amant du Berry, mon beau chéri. Quand tu souris, tous les mystères du Loir est cher sont dans tes yeux,
et le cœur des baigneuses d'Ipanema s'adresse au beau Berrichon.
Et les ombrelles trempant de nos vrais jours de fruits, pour la vie modeste et chapelle et les pommiers de ton pays, tout renoncer au fil d'un terre sous nos derrières pour t'y mourir, qui t'a payé les arriérés de ta pension alimentaire.
Parti là-bas, certains soirs sur ces vieilles pierres, parmi les âmes de ces morts, lui aussi sera bien amer, et sans espoir de réconfort, confiera à sa vieille mère qu'une fin l'attend dans un port et qu'elle adresse ses prières
au Dieu français, à Oshala, à tous les saints, aux dieux de pierre de l'église de Noyers-sur-Cher, pour qu'il retourne sur ses pas. Il y a le Corcovado, immobile en haut de Rio, même en combat bougeant les bras, le clou de Copacabana. Mon bel amant du Berry, mon beau chéri, reparti seul, seul, l'exemplaire du Loir est cher, cher.
Le bel amant du Berry, c'est vous le bel amant du Berry?
Ben oui, je considère que c'est moi, puisque l'Occitanie m'a pris dans ses bras, donc je suis obligé d'être son amant.
Voilà, donc vous êtes là en tant que bel amant du Berry.
Eh oui, parce que je suis d'origine berrichonne, voilà.
Ah, on aurait pu améliorer l'ordinaire avec ça.
Ben oui, on aurait pu, oui. C'est une rencontre de la langue d'oeil et la langue d'oc.
Voilà, et c'est une grande rencontre.
Ben absolument.
Alors, cette rencontre, elle est partie d'où? Racontez-nous la genèse.
La rencontre, alors ça c'est un voyage d'abord romantique, c'est-à-dire c'est de rencontrer à Paris une Occitane.
Ah.
Qui nous entraîne vers le sud.
Ah.
Et à partir de là, étant donné que je travaillais déjà dans le spectacle, hein, avec Sylvia Montfort, on m'a proposé d'être directeur technique à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, par un personnage intéressant qui est parti malheureusement, qui s'appelait Bernard Tournoy. Et pendant 13 à 15 ans, j'ai été directeur technique à la Chartreuse, non seulement pour la restaurer, mais en même temps pour m'occuper de tous les spectacles et toutes les manifestations culturelles. À partir de là, nous sommes engagés sur le territoire languedocien. Nous avons travaillé avec toutes les associations et collectivités locales de la culture sur les départements du Languedoc.
Alors, racontez-nous tout. Comment ça s'est passé? À un moment donné, c'est parti de... C'est parti de quelle flamèche?
La flamèche à partir du moment où je suis dans le sud.
Ah oui, à partir du moment où Pinotto est le patron du circa.
Enfin, patron, c'est un grand mot. Mais il s'avérait qu'à l'époque, la DRAC, il n'y avait pas de formation aux techniques du spectacle comme il y a aujourd'hui. Et avec la Direction régionale des affaires culturelles de Montpellier, on avait monté... une formation technique du spectacle, et il s'est avéré que ça se passait au Théâtre d'Alès. Et ce jour-là, un personnage fort connu de l'Hérault, hein, qui venait des Hauts-Cantons, qui s'appelle, je crois, Monsieur Jean Tufou, m'a proposé de venir sévir, on va dire ça comme ça, pour monter, enfin, éclairer de mes lumières, disons, au sens propre comme au sens figuré, le festival de Minerve qui se montait sur ce qu'on venait de raconter juste avant, c'est-à-dire une aventure culturelle et en même temps sociale et économique.
Ça vous va bien, éclairer, sévir, vous êtes...
Ah bah écoutez, y a certaines personnes me prennent pour un fou, mais comme on me dit, t'es un peu fêlé, mais disons, un vase fêlé laisse passer la lumière.
Voilà. Bon, espérons.
En espérant.
Espérons. Donc voilà, donc, nous sommes partis sur la rencontre de Minerve, la rencontre donc entre Pinoteau et les autres. Et quand on dit les autres, c'est la famille Ocorse.
Absolument.
Et il en restera toute une série d'éléments sur Minerve qui verront des rencontres diverses, et notamment cette création Ménage Bodos Andes, qui sera un peu le phare de cette période.
Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'était... Au départ, on s'aventure, disons, comme... j'allais dire, c'était du militantisme culturel d'apporter sur un territoire, disons, dépouillé d'événements, de venir, disons, planter une petite graine. Mais en même temps, ça permet de rencontrer des gens, et Dieu sait que sur cette manifestation, il y a eu des gens intéressants. Hein, et surtout, ce qui manque, disons, dans la société, c'est que il y a des rencontres humaines qui enrichissent les uns et les autres, et j'ai trouvé largement mon bonheur dans cette rencontre et cette manifestation.
Donc, ben, on est parti pour Minerve de Sandet avec une famille, la famille de Saltimbanque, on va dire, les Cordes,
oui.
Les Cordes & Co.
Ben oui, enfin, à l'époque... C'était des... Enfin bon, c'était une succession, disons, de... Léon Cordes étant comme il était, son fils avait pris la mise en scène de créer ce spectacle, qui était quand même assez important, parce qu'il y avait quand même, en intervenant artistique, il y avait une bonne cinquantaine de personnes qui travaillaient avec...
Facile.
Ouais, et avec de la cavalerie, des animaux, des sangliers qui se promenaient dans le village. Il y avait, enfin, disons, c'était quand même quelque chose de, pour moi, de révolutionnaire dans ce village. Ça a dû créer un vent de panique, et il y avait sans doute quelques opposants discrets, mais il y avait sans doute quelques opposants parce que ça réveillait du monde.
Ça réveillait du monde, il y avait quelques opposants discrets. Mais bon.
Ouais, bah, ça s'est
on
fait.
Les a contenus.
Ouais, bah oui, surtout qu'ils n'étaient pas très agressifs. Hein. C'était, ah, c'est comme la société. Il suffit de faire quelque chose, il y a toujours des opposants. Mais après, tout le monde revendique. C'est ça qui est bien. C'est qu'à la fin, quand ça a marché, tout le monde revendique que c'était grâce à moi que les choses se font. Hein.
On a beaucoup de pères de Minerve aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Non, mais bon. Oui, oui, je me doute. Enfin voilà, bon, moi je garde un très bon souvenir de cette époque. Voilà, c'était une époque d'insouciance et où on s'engageait, parce que pour dire les choses telles qu'elles sont, je me retrouvais quand même bénévole. Je me suis engagé vraiment comme un vrai militant.
Un militant.
Voilà.
Le militant Pinoteau.
Bah, je sais pas, j'étais sans doute à mon propre syndicat, oui. Voilà.
Bon, ben écoutez, ça nous permet de pousser la porte de Julie Hermanet et d'écouter notre deuxième période musicale de la soirée.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour le dernier jour de disco. Je veux l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin.
Dernier jour du disco, c'était tout un titre, toute une aventure. Alors, est-ce qu'on peut glisser Juliette Armanet dans cette aventure moderne ?
Ah ben, d'abord, ça, c'est une chanson très contemporaine, mais l'histoire du disco, ça en revient à l'époque de Minerve, donc on a fait un peu une petite boucle, là.
On a fait une boucle, mais une boucle peut-être nécessaire.
Ah oui, ben, la preuve, c'est que... Le passé revient toujours au présent, de temps en temps, si on veut s'attarder sur pourquoi on est et où on va.
Alors, dites-nous tout sur Minerve. Qu'est-ce que ça fait en vous, Minerve, aujourd'hui ? Est-ce qu'il en reste un tas de pierres, hein, il en reste quoi ?
Bah, il en reste surtout un souvenir humain, c'est-à-dire que dans cette aventure, il s'est créé une amitié avec Michel Corde, surtout. Et je vais dire un gros mot, mais ce salopard, il a décidé de se supprimer. Et ça, ça m'a fait beaucoup de peine, à beaucoup de monde, du reste. Et il s'est. Voilà, il a voulu se séparer de la vie pour des raisons qui lui appartiennent, évidemment. Mais il a laissé ses amis et ses copains un peu dans la peine.
C'est une vérité que vous donnez là. Et qui a beaucoup secoué des gens présents peut-être autour de ce micro, entre autres. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie, c'est l'amour. Alors, Juliette Armanet, donc, c'est le dernier jour du disco. On repart tranquillement. Et on va repartir avec une des plus belles chansons de Jean Ferrat. C'est beau la vie, c'est une chanson que nous attendons tous pour justement, après les moments difficiles que nous venons d'évoquer, c'est beau la vie, mais j'en verrai.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson.
que c'est beau. C'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit, dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.
Est-ce que c'était une belle vie à Minerve ? En ce temps-là, je ne sais pas, peut-être, hein, peut-être que c'était une belle vie, peut-être que de toute façon, esthétiquement, Minerve, c'était beau.
Ah ben Minerve, c'était... Oui, c'était... C'est... D'abord, c'est un très beau village, au niveau patrimonial, c'est une très belle commune. Hein. C'est... Je recommande à tout le monde d'aller visiter Minerve. Hein. Il faut être humble sur ce territoire, mais... Vous découvrez un village complètement extraordinaire. Faut faire ce voyage. Voilà, je conseille à tout le monde, tous ceux qui m'entendent devraient faire un séjour à Minerve. Il y a de très bons restaurants en plus. Alors vous pouvez séjourner quelque temps à Minerve. Voilà.
Donc il n'y a pas de problème. Il y a le coucher et oui, le couvert.
Absolument.
Donc allez tous à Minerve. Prenez la route de la Minervoise. C'est la bien nommée. Et puis, ben, restez-y le temps que vous voudrez.
Absolument.
Peut-être un peu moins que Simon de Montfort, mais bon.
Oui. Voilà, on repart en 1210.
Alors, bon. Racontez-nous cette histoire. D'aucuns diraient aujourd'hui le pif. C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à Minerve ?
Ah ben, Minerve, je ne suis pas vraiment l'historien de cette époque, mais... Et en fait, c'était la mission de Simon de Montfort, c'était de reconquérir pour le roi de France tous ces territoires occitans qui faisaient un peu, disons, désordre dans la société française de l'époque. Enfin, si c'était une partie de la France, il y avait moult baronnies à droite, à gauche, il fallait fédérer tout ça. Donc, c'est une mission, disons... Mission un peu qu'on pourrait considérer aujourd'hui, en employant des mots contemporains, une mission un peu coloniale, disons. Mais qui était fait du reste d'une façon assez stratégique, parce que quand Simon de Montfort arrivait, en fait, il venait comme un libérateur, puisqu'avant, il y avait quelques mécréants qui étaient passés mettre, disons, le feu aux habitations, qui n'étaient évidemment que des, comme on dirait aujourd'hui, des proxys.
Et c'était les proxys, mais les bien nommés.
Ah ben, absolument.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout cela, de cette histoire ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait, les gens d'aujourd'hui ?
Les gens d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais enfin, ce territoire... comment vous dire, ce territoire a une évolution... c'est toujours pareil, dans ces petits villages, il y a toujours un maire. Alors, quelle est l'influence du maire par rapport à son territoire? Est-ce qu'il défend une économie? Est-ce qu'il défend un patrimoine? Est-ce qu'il défend... Je ne sais pas aujourd'hui, je ne fréquente plus ce village au quotidien comme à l'époque, mais je trouve que tout cet arrière-pays de l'Hérault, là, nécessiterait, disons, d'avoir un regard de prospective sur un devenir, disons, plus sain. C'est-à-dire que les gens qui descendent des Hauts-Cantons pour aller dans la grande ville de Montpellier, hein, pour y trouver une économie, une disons, un plaisir de vivre, puisqu'il faut savoir que tous les Hauts-Cantons étaient surtout fédérés autour des Houillères, hein, disons, en gros, comme ça. Tous ces gens sont descendus. Et qu'est-ce qui serait bien aujourd'hui de redonner une dynamique à ces Hauts-Cantons où il y a quand même des paysages, une plastique de regard et des choses à voir, de créer une économie, disons, contemporaine, pas forcément basée sur un monde industriel, mais il y a tellement de choses à faire au niveau économique et culturel à faire sur ce territoire que ça serait agréable d'aller y habiter dans le futur.
Dans le futur, allons tous vivre à Minerve.
À Minerve ou dans d'autres régions des Hauts-Cantons que je trouve superbes. Hein.
Ou dans le Berry.
Alors dans le Berry, il faut déjà avoir des moyens de locomotion. Alors des moyens de locomotion, pour être contemporain, il faudrait pouvoir y aller en vélo. Et il n'y a encore pas de route et de chemin cyclable pour aller jusque dans le Berry, mais ça viendra.
Ça va venir. Ne désespérons pas.
Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui avait déjà créé la route. Hein. Il s'appelle Jacques Coeur, en ayant tout son château et toute son économie à Bourges, avait son port et son port d'attache à Montpellier. Donc Jacques Coeur est aussi bien connu à Bourges qu'à Montpellier.
Tout est possible avec Jacques Coeur.
Voilà.
Et d'autres.
Et d'autres, puisque Gabriel Monet a commencé à Bourges et il s'est éteint dans la ville de Montpellier, voilà quelques années.
Voilà qui nous ravit la mémoire, ou nous ravive plutôt la mémoire. Et nous allons donc continuer avec cette chanson, La Libertat.
Es bello, te suelo.
Libertad, chanson de toujours, on va dire, chanson de toujours, puisqu'elle est bien engagée dans le respect que l'on porte à Minerve, à ce site de Minerve qui nous a beaucoup occupés pendant un certain nombre d'années. Tout à l'heure, on comptait avec M. Pinoton les années. C'est vrai que les années passent. On va dire 50 pour être...
Pour arrondir, oui. On va dire 50, puisque ça doit faire 49 ans.
Et 50 plus. Peut-être. Enfin, voilà, donc on y est en plein. Et peut-être qu'on va agrémenter notre musique du jour avec cette chanson que nous aimons tant et qui rappelle Minerve, c'est la symphonie des éclairs.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Je pense que c'est une chanson qui aurait collé à Minerve. Je sais pas pourquoi.
Pourquoi pas, hein?
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre? On aurait pu la glisser dans le...
Alors là, vous me prenez au dépourvu, parce que Minerve, mais moi, j'ai une effervescence différente. Là, vous êtes dans une poésie, j'étais dans l'action. Alors, je suis un peu décalé, là. Mais Minerve, pour moi, c'était
quoi? Des couleurs.
Oui, c'est des couleurs, mais c'est surtout des couleurs nocturnes de 10h du soir à 5h du matin, vous voyez, c'est donc ça c'était trop poétique. Moi je dormais là, on m'aurait mis ça à l'époque, je dormais, parce que faut savoir qu'en même temps je faisais le festival d'Avignon à la même époque, hein, donc
et de Sarlat
aussi, ouais, vous faites bien de me le rappeler.
Vous aviez une voiture un peu puissante.
Oui, il fallait enfin bon, ça se dit pas à la radio, mais disons que je respectais correctement le code de la route, voilà.
Bon, eh bien, écoutez, on va en rester là sur l'histoire du code de la route, mais bon, ouais. On sait que vous l'avez dépassé moult fois, le code de la route.
Oui, oui, on va dire ça comme ça.
On mais va le dire proprement.
Voilà, mais bon, c'était une époque où les gendarmes étaient sans doute à vélo et ne pouvaient pas me rattraper, voilà.
C'est... Voilà, voilà, voilà. Écoutez, Jean-Pierre Pinotto, on est bien content d'avoir remémoré ces moments d'histoire. Mmh. Et je vois que vous dites rien, mais vous avez un sourire hein, qui en dit long.
Bah, obligatoirement, parce que c'est des instants de fraîcheur que vous avez, qu'on évoque là. C'est d'abord une jeunesse, hein, puisque on est en train de parler de 50 ans, donc c'est une jeunesse gaillarde dans laquelle les horaires ne nous gênaient pas du tout. Hein. On pouvait être très efficace à 5 heures du matin, comme on pouvait moins à 9 heures du matin, c'est vrai. Mais à 10 heures du soir, 5 heures du matin et toute la journée, on était open. Voilà, on était... Parfait, comme on dit dans le spectacle, on était au taquet. Voilà.
Au taquet. Voilà, donc racontez-nous le pitch de Minerve, l'histoire de Minerve, vous nous l'avez raconté déjà, mais pour le plaisir, racontez-nous l'histoire de Minerve. Cette histoire de Minerve, on s'en lasse jamais, racontez-nous-la.
Ben, écoutez, oui, l'histoire de Minerve... L'histoire est assez rocambolesque, en fait, puisque c'est une décision, je pense, du Conseil général de l'Hérault, qui décide de créer une dynamique autour de ce village souhaité par le Conseil général de l'époque, hein, sans doute. Pour moi, c'est un truc magique parce que c'est une aventure que je pense même les décideurs ne pensaient pas que ça aboutirait à ce genre de choses. Parce que faut savoir qu'il y avait aussi tout les paysans venaient aussi. Il y avait les marchands de vin. Il y avait enfin, disons, on pouvait dîner le soir avec que des produits du terroir. On pouvait acheter de la charcuterie, comme du vin, et ça se faisait autour de tables conviviales. Et dans cette grande farandole, disons, les gens se dirigeaient vers l'endroit où il y avait le spectacle pour s'enflammer deux fois, puisqu'il y avait beaucoup de flammes aussi dans ce spectacle. Donc ils s'enflammaient au niveau du cœur et au niveau de la vue.
De l'esprit.
Et de l'esprit, voilà.
De l'esprit. Bah, mais je crois que c'était une belle aventure, Jean-Pierre, que nous avons un petit peu vécu ensemble.
Oui, absolument. Ouais. Pas un petit peu, on l'a bien vécu.
On l'a bien vécu. Et on pourrait demander donc à des tas de gens de témoigner par rapport à cela. Il y a beaucoup de gens qui témoigneraient, même des gens qui étaient un peu à côté de l'histoire. Ouais. Mais bon, c'est la vie. Mmh. C'est la vie, on se forge tous des souvenirs.
Absolument. Et je vais avec plaisir visiter encore le village de Minerve de temps à autre, parce que c'est vraiment évoqué une époque, et puis en même temps, un souvenir de Léon Corde et de Michel Corde, évidemment.
Ah, c'est sûr que ce sont deux messieurs qui ont marqué le territoire, et qui marquent encore le territoire.
Absolument.
Voilà, ben je crois qu'on va clôturer cette émission avec une dernière chanson.
Les flammes sont éteintes, mais j'aperçois encore, sous mes larmes non feintes, le bûcher et les corps, aussi des minervoises tombées sous le boutoir, de Montfort qui pavoise, de victoires en victoires. Minerve, Minerve. Après quelques semaines qui furent des années, comme souffrance des chaînes, tu ouvris ton portail aux faucons dont les serres déchirèrent ton poitrail en y plantant le fer. Minerve, Minerve, aussi vaine que futile, c'est d'un geste macabre qu'on envoie à la file des cathares et des leurs se tordre dans les flammes, des cathares que je pleure, victime de la trame. Minerve, Minerve. Par homme et son église, dont le but avoué fut de mettre l'emprise sur les terres fidèles au Christ rédempteur, en tirant les ficelles du jeu de la terreur. Minerve, Minerve.
Attitude. Outitanitude.
Une émission de Jean Tufou, mise en onde par Lucas Dulac.